Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir sa vision sur le monde à travers différents parcours de vie, différentes expériences de voyageurs, de réalisateurs, d'écrivains. Là, j'ai avec moi dans mon camion sur un salon Fabien Bastide. Donc voilà, tu es sur un stand et tu présentes ton nouveau bouquin que tu viens de sortir chez Transboréal. Donc j'ai juste vu comme ça en passant deux chevaux, voyage, Laos, route, France, Laos, enfin apparemment tout un périple qui a duré plusieurs mois, peut-être plusieurs années, je sais pas. Mais l'idée c'est de prendre le temps de te rencontrer, de te découvrir, savoir un petit peu qui tu es et savoir aussi ce que représente pour toi le voyage et à quel moment ça a commencé dans ton itinéraire personnel. Donc Fabien, raconte-moi un peu cette notion du voyage, du mouvement, quand est-ce que c'est apparu ?
Alors, ouais, c'est une bonne question, ça. Alors, où ça a commencé? Vu que je suis plutôt jeune, déjà, ça remonte un petit peu maintenant. Mais très clairement, moi, ça a commencé dans les bouquins. Avant que je sois en capacité de physiquement me mouvoir à l'autre bout du monde, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et j'ai été évidemment inspiré, comme beaucoup, par des écrivains qui ont roulé leur bosse à peu près de toutes les époques. Et j'ai réellement commencé à voyager dès que j'ai pu, en fait, vers 17 ans, 16-17 ans. Et j'ai commencé tout de suite par des voyages qu'on appelait voyages au long cours, qu'on appelle toujours voyages au long cours d'ailleurs. Mais bon, c'était d'autant plus au long cours que quand on n'a jamais voyagé, le long cours est vite arrivé, quoi. Il suffit de quelques semaines ou quelques mois. Mais du coup, dans les années 2000, début des années 2000, j'ai commencé à voyager et surtout d'y passer la majeure partie de mon temps.
Premier voyage, c'était quoi ?
Alors, premier voyage, j'en ai fait quelques-uns en famille, les prémices des voyages, Québec, Turquie, tout ça, avec des échanges un peu en Europe aussi, au Danemark, en Allemagne. Mon premier grand voyage, c'était un voyage où je suis parti seul en Inde pendant plusieurs mois, donc à 18 ans, un peu plus, 19. Et puis j'ai tout de suite enchaîné avec un autre long voyage, pratiquement 3 semaines plus tard à mon retour. Je suis parti en 2 chevaux en Afrique, faire un long périple de 20 000 km sur plusieurs mois aussi. Ça a duré, je sais pas, en tout 7 mois. Je suis resté un petit moment au Burkina Faso aussi, entre-temps. Et puis voilà, et puis je suis revenu chez moi après ces deux voyages qui ont duré au final presque un an, l'un après l'autre, un an au complet.
Donc à 19 ans, tu pars plusieurs mois en Inde comme premier grand voyage solo. Est-ce que tu avais déjà un projet là-bas ou c'était vraiment te mettre sur la route avec ton sac à dos sans vraiment savoir ce que tu allais y découvrir ? Quelle était l'idée ?
Alors, j'avais un projet parce qu'en fait, je suis parti en Inde dans le cadre de mes études où en fait, moi j'ai fait une école qui porte sur l'agroéconomie, donc vraiment l'économie des ménages dans les pays en développement. Donc savoir un petit, c'est entre la sociologie et l'économie, c'est savoir un petit peu comment les gens vivent et avec quoi, et surtout dans les zones reculées. Donc moi j'étais en plein cursus à ce moment-là, et dans ce cursus-là qui est complètement orienté pays du Sud, je savais que j'allais passer le plus clair de mon temps en voyage pour mes études. Après je suis parti en Inde parce que j'ai vu une opportunité là-bas, je savais pas du tout ce que j'allais trouver, ce qui était sûr c'est que j'étais à fond, parce que j'avais les images de l'Inde comme on l'a quand on a 18 ans et qu'on a lu plein de choses là-dessus. Donc j'ai eu une overdose de littérature sur l'Inde avant de partir, et puis je suis tombé amoureux de ce pays-là. Voilà. Mais bon, j'étais à la fois, j'avais donc ce stage en fait qui était la raison de mon départ, mais en fait j'ai presque plus souvenir, j'ai davantage de souvenirs sur ma vie quotidienne là-bas, qui était au fin fond du Rajasthan à ce moment-là. Enfin, pour moi, c'était pas une expérience de travail ou de, c'était vraiment une découverte. Très profonde, quoi, une découverte de moi-même et une découverte d'un pays qui est en plus, depuis, avec tous ces voyages que j'ai fait depuis ce voyage-là, je me rends compte encore aujourd'hui que ça fait partie des voyages les plus insolites que j'ai pu faire.
J'entends ça souvent, que le voyage permet une découverte de soi-même. On part souvent pour découvrir le monde et découvrir l'autre, mais souvent celui qu'on rencontre, c'est soi.
Ben ouais, en fait, c'est un peu un cliché, mais c'est d'autant vrai sur ce voyage en Inde, quoi. Moi, je suis pas parti pour des raisons mystiques ou je suis plutôt quelqu'un de terre à terre et tout ça. Mais en fait, il y a un autre cliché que j'aime beaucoup dire parce que finalement, c'est un des seuls clichés que je trouve vrai sur l'Inde en particulier. C'est que on dit souvent quand on reste une semaine en Inde, on écrit un livre. Quand on reste 2 mois en Inde, on écrit un article. Et quand on reste 1 an ou 2 ans en Inde, on n'écrit plus rien. Parce qu'en fait, c'est la découverte, en se levant le matin, de la complexité de ce système-là. Il n'y a pas une Inde noire, une Inde blanche. C'est très complexe. Et surtout, que moi, je me suis plongé... vraiment, j'ai essayé de ne pas vivre ça de manière superficielle. Je me suis plongé dans la littérature, je me suis plongé dans la compréhension du système social. D'ailleurs, je me suis spécialisé dans la gestion des adivasis, des sans-terres, quoi, les minorités qui sont en dehors du système du caste. J'ai écrit des papiers scientifiques là-dessus après. Enfin voilà, ça m'a passionné. Et donc, ce voyage, ça a été vraiment un voyage, une introspection. Et puis un coup de cœur, en fait, ça m'a confirmé dans cette volonté de continuer à aller découvrir l'autre près de chez moi et à l'autre bout du monde. Quoi.
C'est vrai que c'est souvent un voyage, on amène un autre et un autre et un autre, donc tu as tout de suite enchaîné avec l'Afrique.
Ouais, alors ça c'était autre chose, hein, pour le coup, c'était beaucoup moins profond, on va dire, c'était plus une aventure pour le coup un peu plus classique. Enfin classique, on est quand même parti en 2 chevaux. Je suis parti avec des copains pour le Burkina où on avait là aussi un projet de professionnel. Finalement, on a fait une partie ensemble, puis les autres m'ont abandonné, moi j'ai continué tout seul. Et là c'est les grands espaces, c'est le désert, c'est les bivouacs tous les soirs, c'est les rencontres avec des gens improbables, dans des endroits improbables. C'est pareil, toujours ces sentiers, enfin cet itinéraire en dehors des sentiers battus qui permet de rencontrer des gens qui s'attendent pas à nous voir et inversement. Donc, c'était extraordinaire, quoi.
Qu'est-ce qui fait moi j'ai envie de parler d'intensité dans le voyage, hein. Tu parles d'endroits improbables, avec des rencontres improbables, des échanges inattendus, et c'est vraiment cette intensité qui moi m'appelle dans le voyage et qu'on retrouve pas forcément en France. Est-ce que tu arrives à retrouver ça ici, toi? Comment tu gères ce décalage qu'il peut y avoir des fois quand tu reviens, où finalement peu de choses ont bougé dans l'environnement proche, alors que quand on est sur les routes, il se passe énormément de choses.
Je suis complètement d'accord. Pourquoi moi je continue à bouger beaucoup et pas forcément loin, mais en tout cas de manière, enfin je vise forcément, enfin forcément en tout cas, je pense que beaucoup le font, viser des zones où on peut se dépayser, en fait, changer d'air, se remettre en question, prendre du recul et tout ça. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours dit, quand on me posait la question, que je fuis pas la France du tout, quoi. J'adore ce pays, j'adore l'Europe, j'adore la France. Mais c'est vrai que à force de dire, quand j'ai après 15 ou 18 ans de vadrouille, là, quand on m'a dit, parce que après je suis rentré en 2016 en France pour m'y installer, on m'a dit mais tu n'y arriveras jamais. Moi je lui dis mais bien sûr que si, il n'y a pas de raison que je me sois adapté partout, je peux bien me réadapter chez moi. Et j'avoue que j'ai un peu de mal quand même sur certaines choses, mais en fait je continue à voyager aussi en France, et oui je retrouve aussi ce genre de choses qui ne sont pas tout à fait de la même nature, mais il y a certains projets que je fais en France de manière un peu alternée, en tout cas avec différentes phases, que dans lesquels je retrouve, en fait je me surprends, je me fais surprendre par certaines choses, et le seul fait de me faire surprendre, ça me surprend, parce qu'en fait on est en France, on est censé tout savoir, tout connaître, et en fait on se met dans, enfin moi je me mets dans des situations où finalement je vis la même intensité de certaines rencontres en France que d'autres au milieu de à Vladivostok ou à Bamako, quoi. Et donc, comme beaucoup, je me pose beaucoup de questions aussi sur les voyages longue distance. Alors c'est vrai que je prends l'avion pour mon travail, mais je prends très peu l'avion pour mes voyages perso, parce qu'il y a plein de façons de voyager autrement qu'en avion. Mais évidemment, le fait de voyager proche de chez soi, on est tout de suite plus raccord avec le monde actuel, et moi ça me va bien, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Fabien. Fabien Bastide. Donc voilà, du coup, je te rencontre sur un stand où tu viens de sortir un livre chez Transboréal. Parle-moi un peu de ce projet. Si j'ai bien compris, c'est avec un départ en France, direction le Laos, avec ta femme d'origine laotienne.
Ouais. Alors, c'est un voyage... au retour de mon voyage en deux chevaux que j'avais fait avec des copains, on était déjà ensemble avec Coralie depuis un bon bout de temps. Et tout de suite en rentrant, ça faisait quelques temps qu'on voulait aller au Laos. C'est un pays qu'on ne connaissait pas parce que son papa est laotien, sa maman française, mais elle est née en France. Donc, on avait comme objectif depuis longtemps d'aller découvrir le Laos, mais découvrir pas pour les vacances, pas pour deux semaines. Vraiment aller passer un bout de temps là-bas. Et on ne voulait pas y aller en avion. Donc quand on s'est posé la question de comment on va aller au Laos, on est libre tous les deux. Alors, on s'est dit on va y aller à pied. À pied, ça va faire long. Mais pourquoi pas? En vélo, maintenant un peu plus, mais à l'époque, on n'était pas très vélo. Et donc, bref, du coup, la question s'est vite posée sur le moyen de transport. Et puis, moi, je rentrais de mon super voyage en Afrique en deux chevaux. J'ai pas eu besoin de beaucoup la convaincre pour partir en deux chevaux. Donc, on est parti de Montpellier et on est parti on a traversé 18 pays, on a fait 35 000 km et on est arrivé au Laos 18 mois plus tard. Et on devait y rester 3 mois, on est resté 7 ans là-bas.
Et donc là, c'était avec la même deux chevaux, c'est celle qui t'avait emmené en Afrique, qui t'a ramené...
Non, c'est pas la même. C'est pas la même, mais bon, on aurait pu partir avec la même. Elles étaient dans le même état, quoi. Elles étaient dans le même état, toutes les deux.
Et donc, c'est possible de partir de France avec une deux chevaux et d'aller aussi loin?
C'est plus que possible, c'est recommandé. Non, la deux chevaux, alors c'est sûr qu'on parlait d'avion, tout ça, ça reste un véhicule, mais c'est tellement beaucoup... tellement plus proche du vélo ou de la marche à pied que du 4x4 ou du camping-car. En fait, c'est une voiture qui fédère énormément. C'est un sésame pour les rencontres. Elle consomme pratiquement pas. Elle est légère. On peut pas embarquer trop de choses. Elle ferme pas. Les gens voient bien qu'on peut pas être des gens mauvais dans une voiture comme ça. Et surtout, c'est une voiture que tout le monde connaît dans le monde entier. C'est en plus une ambassadrice de la France. Donc c'est assez rigolo, quoi. Et la deux chevaux, c'est absolument génial pour voyager, quoi.
Ouais, elle a un capital sympathie incroyable.
C'est génial. Puis, sans compter que dans chaque pays, elle a son petit surnom. Il y en a dans certains pays, c'est un canard, dans l'autre, c'est une grenouille. Combien de fois on a une mini panne qui s'est transformée en 15 jours de séjour chez des gens qu'on a rencontrés sous prétexte qu'il fallait réparer. Enfin voilà, c'est arrivé plein de fois.
Bah ouais, mais alors comment est-ce que tu définis ton itinéraire? Est-ce que tu avais un timing? Non, parce qu'on va pas vite quand on part en deux chevaux. On s'offre le luxe d'avoir du temps.
Alors nous, on est toujours parti sans timing. C'est aussi, c'était une des conditions sine qua non pour partir. On n'avait pas forcément ce luxe-là, mais on se l'est créé, ce luxe-là. Donc on a toujours lâché ce qu'on faisait pour vraiment partir. Donc là, on n'avait pas de timing. C'est ce qui fait toute la magie de... En fait, on se laisse offrir l'imprévu et donc les rencontres et le temps pour passer du temps avec ces gens-là. Enfin, c'est absolument génial, quoi. Donc pas d'itinéraire vraiment. On savait qu'on voulait aller au Laos. On savait qu'il y a des pays qu'on pourrait pas... traverser. On n'avait ni les moyens logistiques ou financiers d'aller en Chine et en Russie, qui nécessitent des accompagnateurs. Donc ça, on savait que la partie nord, on n'irait pas. Alors on l'a fait au retour, par contre, en train. On est rentré en train pour le retour du Laos, après 7 ans au Laos. Mais à l'aller, on était bornés par des pays qu'on savait qu'on ne traverserait pas, mais on n'avait pas d'itinéraire précis, quoi.
Et comment ça se passe, hein, les passages aux douanes, quand tu pars comme ça en véhicule? Parce que bon, je pense que pas mal de gens le font, finalement ça paraît exceptionnel, mais j'imagine que quand t'es sur la route, t'en rencontres d'autres. Et comment est-ce qu'on fait pour passer les frontières?
Ben en fait, beaucoup de gens le font, mais pas dans les pays où on est passé. Il y a plein de pays qui refusent, en fait. Donc nous, on a un peu triché, on a fait un peu des faux papiers, des trucs comme ça de temps en temps. Il faut lire mon livre pour tout savoir. Mais non, mais en fait, il y a un carnet de passage en douane, donc c'est ce fameux passeport pour la voiture qui fait qu'en fait, on laisse une caution dans un automobile club en France, qui est en fait la caution, comme quand on ne laisse pas le véhicule dans un des pays traversés. Et si on laisse le véhicule dans un de ces pays, l'Automobile Club de France envoie la caution dans le pays en question pour payer les droits de douane. Donc en fait, c'est une espèce d'argent qu'on nous rend quand on ramène la voiture en France et qui est proportionnel à la valeur du véhicule. Nous, autant dire que ça coûtait rien. Et de toute façon, on a ramené la voiture et on a récupéré notre caution. Mais c'est ce qui permet en fait de pouvoir rentrer et sortir le véhicule.
Ça paraît trop facile quand on parle, donc parle-moi d'une frontière qui était un peu compliquée à passer.
Oui, il y en a plusieurs. Le Vietnam, très difficile en voiture, le Pakistan, compliqué, mais c'était plus pour des questions géopolitiques. Ça dépend par où on rentre, en fait. Les frontières indo-pakistanaises, c'est toujours compliqué. Même iranienne, au niveau Iran-Pakistan, c'était compliqué aussi. Ça se fait, mais ça se fait en fonction aussi de la période. Il y a des périodes où ça se fait facilement. Là, ça fait longtemps que c'est compliqué parce que c'est, ça craint, quoi. Donc c'est pas forcément que des questions non plus administratives, c'est aussi des questions géopolitiques et sécuritaires. Bon, nous, après, on se foutait pas dans la gueule du loup, mais on était conscients de risques qu'on prenait. Et quand on estimait qu'on pouvait se permettre de partir et qu'on nous donnait pas l'autorisation, on s'arrangeait un peu, quoi. Alors, on n'a jamais donné de bakchich, ça, c'est notre grosse fierté. Mais par contre, on a fait des faux papiers, on a fait des... Voilà, on a un peu arrangé... On a mis des petits tampons français sur nos propres courriers, quoi.
Mais ça marche, vous avez réussi à partir de France pour aller jusqu'au Laos en deux chevaux, quoi.
Ouais, alors il y a un pays qu'on n'a pas pu traverser, c'est la Birmanie, qui a été ouvert très peu de temps après, pendant un très court moment. Mais au moment où on est passé, on a fait un reportage avec, parce qu'on faisait un projet autour de l'eau pendant notre voyage. On a fait un reportage avec l'UNICEF à la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie. Et on espérait pouvoir passer entre les mailles et être l'exception pour traverser ce pays. Et en fait, ils nous ont refusé. Donc on a mis juste un tout petit saut de puce, quoi, de la Birmanie entre le Bangladesh et la Thaïlande, la voiture sur un bateau. Et nous, on a dû faire un saut de puce en avion. Mais ça représente quelques centaines de kilomètres sur 35 000. Donc, on estime qu'on s'en est pas trop mal sorti.
Mais donc, sur ces 35 000 kilomètres en deux chevaux de la France jusqu'au Laos, il y avait quand même un fil rouge ou un alibi. Tu parlais d'un projet sur l'eau, c'est ça? Il y avait quand même un...
Ouais, c'était ça. En fait, on s'est posé la question de savoir si on avait vraiment envie de partir avec un projet. Mais on avait vraiment envie de le faire, ce truc-là. En fait, on voulait s'intéresser, alors, à notre rythme, mais sans objectif particulier. On n'avait pas de mécène, on n'avait pas d'objectif, à part ce que nous fixions nous-mêmes. Mais en fait, l'idée, c'était de savoir, de s'intéresser un petit peu à comment l'homme, quel que soit le milieu dans lequel il vit, quelle relation il entretient avec l'eau, que ça soit sur des aspects géopolitiques, environnementaux, agricoles, traditionnels, spirituels, tout ça. Donc on a fait des interviews, on a fait des photos, et puis finalement on avait matière à faire une belle expo photo qui a tourné pendant plusieurs années en Asie et en Europe, et puis même au Congrès mondial de l'eau en France. Donc on était contents, mais ça nous a pas ça a pas été un boulot monumental. C'était encore une excuse pour rencontrer des gens, en fait, hein. Et vu qu'on travaillait tous les deux dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles, c'était quelque chose qui nous intéressait vraiment, quoi. Et on a appris plein de choses, c'était passionnant.
Comment est-ce qu'on finance un projet comme ça au long cours ?
Bon, ça nous a pas coûté grand-chose, d'autant plus qu'on n'avait rien en France. Donc on a fait le calcul, ça nous a coûté tout compris 10 000 euros pour un an et demi de voyage à deux. Donc en fait, la deux chevaux, on l'a eu gratuite. Les passeports, c'est ce qui nous a coûté le plus cher avec l'essence. Mais l'essence, c'est cher qu'en Europe. Après, c'est moins cher que l'eau. En Iran, ça coûte rien. Voilà. Et puis, la deux chevaux consomme pas beaucoup. On vivait exclusivement sur les marchés locaux. On n'est jamais allé à l'hôtel, pratiquement jamais. On s'est payé quelques chambres à droite à gauche, mais c'était des chambres à 2 dollars, quoi. Voilà, on a été invité sans le demander un tiers de notre temps. Un tiers de nos nuits à peu près. On l'a jamais tapé à une porte. On nous a, voilà. Mais ça, c'est un voyage qui coûte pas grand chose. Quand on voit ce qu'on paye en France en un mois de vie normale ici, voilà, 10 000, 11 000 euros, c'est rien, quoi. Donc on l'a financé, on a travaillé pendant 8 mois tous les deux pour monter ce budget de voyage, quoi.
Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent il y a cette croyance que voyager coûte cher.
Ben non, je pense que quand on a la chance d'avoir la santé et un passeport français, il y a ni les enfants ni le budget doit représenter une excuse pour pas partir quand on a envie. Je pense qu'il y a les deux seules choses que je pense, moi, pouvoir empêcher le départ pour quelqu'un qui a vraiment envie, c'est la santé et le passeport, quoi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas bouger de chez eux. Nous, on a la chance en tant que Français de, bon, même si c'est de plus en plus compliqué pour des questions politiques, en tout cas on n'est pas reçu de la même manière partout, mais on peut quand même bouger partout, et ça, c'est une chance que je pense qu'on s'en rend pas assez compte. Et la santé, bien sûr, ça c'est encore autre chose. Mais
tu dis la santé, il y a aussi le temps, hein, avoir le temps, s'offrir ce temps-là.
Alors le temps, je suis d'accord, mais le temps, en fait, c'est des choix, c'est plus des choix. Le passeport, c'est pas un choix, la santé, c'est pas un choix. Mais le temps, on peut, enfin, pour moi, quand on décide si vraiment on a envie de vivre ce genre d'expérience au long cours sans échéance, Ben, il faut avoir le courage, et c'est ça le plus compliqué, hein, pour beaucoup, c'est de quitter son boulot, plus avoir la sécurité d'en retrouver un, vivre avec rien. Et ça, on est dans une société qui pousse à être dans le toujours plus, toujours la sécurité surtout. Dans la sécurité, et je ne parle pas de la sécurité physique, je parle de la sécurité économique, financière, sécurité sociale, enfin, c'est il faut rester dans un moule. Et ça, ça aussi, c'est cliché, mais c'est une réalité. Quand je vois des gens quand je discute avec des gens après une conférence, qui me regardent, et les yeux, il y en a qui n'ont pas envie de faire ça. Il y en a qui nous regardent avec des yeux qui brillent, enfin, tu es bien placé pour le savoir. Et je dis, mais en fait, c'est un choix. Moi, moi, mon choix pendant 15 ans, ça a été de faire ça. Et puis peut-être ça ne sera plus dans 3 ans, j'en sais rien. Mais ce sont des choix. Voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Il y a cette phrase qu'on lit, ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Donc toi, ça a été ce rêve un peu fou hein, de traverser toute l'Europe et toute l'Asie, l'Asie centrale, pour aller jusqu'au Laos en 2 chevaux, tu l'as fait. Il y a cette notion d'effectivement, tu parles de sécurité, et j'ai des fois l'impression que la sécurité nous emprisonne dans des peurs et nous empêche d'être réellement libres. Et plus on se dénude, plus on enlève du matériel autour de soi, plus on est libre et plus on se sent capable d'eux. Hein, il y a souvent des barrières du mental qu'on va se mettre en pensant que c'est compliqué, et quand on se met vraiment dans le mouvement, il y a une forme de magie qui opère, et en fait, tu te rends compte que tout est possible.
Exactement. Et puis le dépouillement, c'est vachement important. Maintenant, on est tous prisonniers de tout un tas de choses, sans parler des écrans, des téléphones, tout ça. Mais le fait de se dépouiller, moi, je suis obligé, même dans une année, on va dire un peu classique, où je suis chez moi, je bosse normalement comme tout le monde, je m'octroie au moins 2 fois 3 semaines de dépouillement, quoi, où je vais marcher. Là, en août, je suis parti en Albanie par la route pour aller marcher dans les montagnes, les Alpes albanaises, sans rien. Voilà, moi j'ai besoin de ça. Et je trouve que, en fait, il y a autre chose, c'est que si dans les 2 prochaines années, je ne fais plus ça, je sais qu'on. C'est beaucoup plus facile de se réhabituer au confort. Le confort, c'est pas un problème, mais l'esclavagisme que nous procure le fait d'être esclave de son quotidien, de son travail, de ses biens matériels et tout ça. Je pense qu'il faut entretenir le dépouillement, en fait. Et moi, c'est un truc dont j'ai besoin, mais je sais aussi que c'est quelque chose qu'il faut entretenir, parce que sinon, on l'oublie, quoi. On oublie qu'on est capable de se séparer de son portable, de se séparer voilà, quand on doit faire un choix entre tel livre ou tel livre parce qu'on peut pas en prendre 2, ben on fait le choix, et en fait on s'en porte pas plus mal. Et si on a fini notre bouquin, ben on regarde les étoiles et puis voilà.
Entretenir le dépouillement, j'aime bien, hein. Il y a tous ces mouvements de sobriété heureuse, de simplicité volontaire, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est là tout souvent à se conformer à un monde matériel. On nous a fait croire que le progrès allait libérer l'être humain, alors qu'en fait on est plutôt de s'emprisonner dans tout ça, dans cette illusion. Et j'aime bien cette phrase qu'on entend beaucoup sur le chemin de Compostelle, où les pèlerins aiment bien se raconter que le poids de leur sac représente le poids de tes peurs. Et c'est un peu ça, hein, ça rejoint ce truc d'apprendre à se dépouiller, comme tu disais, ou d'aller vers cette forme de sobriété, de simplicité. Et je trouve que ça amène vraiment une légèreté dans nos quotidiens.
D'ailleurs, on parlait de Saint-Jacques de Compostelle, mais ça a été le cas pour nous aussi. Tout le temps, enfin en tout cas moi, je devrais avoir l'habitude je devrais savoir exactement ce dont je vais avoir besoin dans mon sac. Et ben ça loupe pas, je prends toujours trop de trucs. Et je sais qu'au bout du 2e jour, j'en enlève la moitié. Et ça a été le cas en 2 chevaux aussi. On savait qu'on avait besoin de rien, on est parti avec presque rien, et on a déjà, on n'était même pas arrivé en Suisse, qu'on avait déjà donné notre tente, donné nos deux pneus, nos 2 roues de secours. Ce qui était quand même 2 éléments importants on s'est dit bon, on peut dormir dehors à la belle étoile, on a une bâche, ça suffit. Les roues de secours, c'est trop lourd, on passerait pas les déserts, on les largue. Et en fait, on s'est très bien débrouillé sans roue de secours. Donc en fait, sur le chemin de Compostelle, il y a plein de gens qui partent avec un sac trop lourd, la plupart, et après, petit à petit, ils se dépouillent aussi au fur et à mesure.
Après, il y a aussi peut-être intéressant de rappeler que le dépouillement, la sobriété, c'est quand elle est choisie, qu'elle est vécue de manière heureuse, hein, parce que certains peuples subissent aussi ce manque matériel.
Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, je ne vis pas dans le dépouillement. Moi, j'ai une vie, j'ai la chance d'avoir une vie de Français normal, à pouvoir manger, à pouvoir avoir un toit, de pouvoir offrir des vacances à mes enfants, voilà. Et c'est pour ça que, à la fois, il faut avoir une clairvoyance sur le fait que c'est un privilège, et à la fois, il faut avoir aussi par l'acte lui-même de se dépouiller régulièrement, on n'oublie pas qu'on a cette chance-là. Et c'est aussi pour ça que le fait de partir en deux chevaux plutôt qu'en camping-car, le fait de partir à pied, tout ça, je trouve que c'est une façon aussi de ne pas oublier qu'on sait pas de quoi demain sera fait et qu'on pourrait très bien se retrouver demain dehors comme plein de gens malheureusement le sont.
Fabien, tu es parti en deux chevaux avec ta compagne sur 18 mois direction le Laos et tu es resté ensuite 7 ans.
Oui. C'était pas trop prévu, mais c'est un pays. Déjà, nous on avait une histoire familiale parce qu'on avait envie d'apprendre la langue. On avait appris parce qu'en fait, la famille de Coralie est à Montpellier. Les grands-parents de Coralie parlaient pas français. Et on avait envie de pouvoir raconter en fait leur pays qu'ils avaient quitté en 75 eux à l'époque. Ils faisaient partie de la vague de migrants des années 75 quand le communisme est arrivé au pouvoir. Et donc on avait très envie de découvrir le pays, de retrouver les cultures, la culture laotienne qu'on connaissait depuis la France, de la découvrir dans le contexte laotien, de parler la langue et pouvoir justement parler au retour aux grands-parents parce que ça c'était extraordinaire. Coralie qui n'avait jamais parlé à ses grands-parents directement. A pu le faire après, sans intermédiaire, et surtout beaucoup mieux que la plupart des Laos de ses oncles et tantes qui parlaient la langue, parce qu'ils parlaient une langue qui avait 30 ans d'âge, et elle parlait la langue d'aujourd'hui. Donc c'était très important, et puis c'est un pays qui est tellement extraordinaire, le Laos. Moi j'y étais il y a 3 jours encore, je suis rentré avant-hier, et c'est un pays qui est en pleine mutation, très rapide, mais ça reste un pays extraordinaire. Et on est tombé sous le charme, et puis on a trouvé du boulot extraordinaire. Elle a monté un centre vétérinaire pour les éléphants là-bas. Donc on a vécu au milieu des éléphants, en gestation ou blessés. Là-bas, ils font du débardage de bois encore. Et donc on a monté ce centre pendant des années, à vivre au milieu de ces éléphants qui sont des bestioles extraordinaires. Moi, j'avais trouvé un boulot passionnant avec la Croix-Rouge française. Je gérais un projet de nutrition sur là-bas avec toute une équipe de là-haut. Donc voilà, on a appris la langue maintenant que je parle couramment. C'est des moments très forts, en fait. Et c'est pas en capitale qu'on vit ça. Nous, on était vraiment excentrés. Et ça fait partie des plus belles années de ma vie, quoi.
Qu'est-ce qui a acté la fin du chapitre Laos ? Pourquoi vous êtes rentré après 7 ans ?
Parce qu'on était trop bien et on voyait qu'on allait s'encrouter. Et il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, le pays était en pleine mutation, comme je le disais. Il y avait un énorme projet de train grande vitesse chinois pour traverser le pays. Et c'est en fait un cheval de Troie chinois pour ce pays-là qui va, de toute façon, à mon avis, malheureusement, devenir une province chinoise dans quelques années, on va dire. Et on s'était dit, dès qu'il pose le premier rail de ce train chinois, on s'en va. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on s'est dit, on y est tellement bien quand même qu'on risque d'y passer toute notre vie, en fait. Et alors, on nous dirait, pourquoi pas ? Mais on avait envie de faire autre chose. Et puis on s'est dit, là il y a un créneau, on avait fini nos boulots respectifs, on s'est dit, il y avait Vatsana qui avait 3 ans, donc il aurait fallu trouver une école. On a monté une école là-bas, qui est maintenant une école française agréée, éducation nationale, mais qui était à l'époque une petite école avec une instit qu'on a fait venir de France, qu'on a monté avec quelques copains. Maintenant il y a 50 élèves dans cette école-là. Donc il fallait lui trouver une école, donc on a dit voilà, soit on la met dans cette école-là, soit on rentre en France. C'était aussi un peu un moment charnière. Et puis on se rendait quand même compte qu'après 8 ans, vu la vitesse d'évolution de ce pays-là, on commençait à être nostalgique des premières années. Et ça commence à pas être bon. Donc moi j'y vais très régulièrement pour le boulot, je suis ravi d'y retourner, mais nos plus belles années étaient au début de notre séjour et pas à la fin. Même si ça reste un pays extraordinaire, mais bon, ça c'est des vécus. Donc ça, on s'est dit, on va aussi rentrer en France pour revoir notre famille, nos copains. Ça faisait 15 ans qu'on avait quitté la France, finalement. On avait très peu vécu en France depuis le début des années 2000.
Fabien, qu'est-ce que ça représente pour toi le voyage ?
C'est sortir un peu de son quotidien. Je sais pas, moi j'aime bien voir des nouvelles têtes aussi. Je pense que c'est le cas quand je viens dans des salons, des festivals comme ça. Pour moi, c'est un peu la même chose, en fait. Je rencontre des personnes que j'aurais jamais rencontrées dans un autre contexte. Si on se cantonne à rencontrer nos voisins, qui sont en l'occurrence géniaux pour en ce qui me concerne, ou dans le milieu professionnel, ben finalement on reste dans notre bulle. Là, le voyage, ça m'apporte ça, ça donne un vrai sens à ma vie, ça me fait rester jeune aussi. Là, je descendais le fleuve Gambie en pirogue avec mon copain photographe Lucas Lepage, là, il y a pas très longtemps. Voilà, là c'était un voyage assez incroyable. On a pris quand même des risques, on a vu des choses absolument merveilleuses en pleine nature. Voilà, il y a des rencontres, mais il y a aussi la contemplation. Il y a aussi le physique, quoi. On est plutôt jeune. Moi, ça me fait. Enfin, je parle pas de toi, hein, mais moi, je me sens de moins en moins jeune. Mais en tout cas, voilà, marcher en Albanie, ça m'a fait du bien. En fait, il y a tout un tas de sujets, quoi. Il y a la rencontre, il y a le sport, enfin l'activité physique. Il y a la contemplation. Moi, j'ai besoin d'être en permanence étonné, et je pense que c'est ce qui me fait tenir et d'être en permanence à fond, quoi. Et heureux d'être là, quoi. Voilà.
Fabien, merci, merci beaucoup.
Eh ben, merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.